Nous allons prendre place. Nous lisons dans Actes des Apôtres, au chapitre 4. Actes des Apôtres, au chapitre 4. Actes des Apôtres, au chapitre 4. Il y a une place là. Actes des Apôtres, chapitre 4. Il est écrit ceci. Voilà, je vais lire. Tandis qu'il parlait au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, fâchés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils portèrent les mains sur eux et les mirent sous bonne garde jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5 000. Le lendemain, leurs chefs, ainsi que les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur. Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu de Pierre et Jean et demandèrent: par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Au fait, ils avaient guéri un paralytique. Alors Pierre, rempli d'Esprit Saint, leur dit: chef du peuple et anciens, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri, sachez-le bien, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui la pierre rejetée par vous les bâtisseurs et devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais en voyant debout auprès de l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Amen. Donc, nous allons parler du fait que c'est Jésus qui est la pierre angulaire. C'est seul le nom de Jésus qui sauve. Et c'est le verset 12, 11 et 12 qu'on va relire. C'est lui, la pierre rejetée par vous les bâtisseurs. C'est cette pierre-là qui est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le salut ne se trouve en aucun autre. C'est Jésus-Christ sur qui tout est reposé. Et si aujourd'hui on voit la confusion, on ne voit pas vraiment l'action puissante de Jésus comme c'était le cas dans ce qu'on est en train de lire. C'était clair, dont les gens ne pouvaient rien répliquer parce que cet homme-là a été guéri au nom de Jésus. Ils ne pouvaient plus discuter. Parce que la pierre de l'angle qui est Jésus a été rejetée et elle est rejetée aujourd'hui encore. À l'époque, c'était rejeté. Les pharisiens n'ont pas voulu sentir Jésus. Ils étaient en colère. Ils n'ont pas voulu entendre parler de lui. Mais Dieu dit, au fait, c'est un verset qui vient du psaume 118, « La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre de l'angle. Tout celui qui néglige Jésus finira à côté. » Il finira à côté. Il a beau faire les choses très bien comme il veut, tant qu'on néglige Jésus, on finira mal. On se souvient même de l'apôtre Pierre qui est en train de parler là. À un moment, il avait négligé Jésus. Il a dit à Jésus, « Je ne te trahirai jamais. Je te resterai fidèle. » Jésus voulait lui faire comprendre, « Mais Pierre, tu ne peux rien faire sans moi. » Il leur a dit dans Jean 15, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Mais Pierre s'est entêté à croire qu'il pouvait faire les choses sans Jésus. Il a rejeté cette pierre principale que Jésus, et il a fini par renier Jésus trois fois. Je parle que ce soit aux païens, je parle que ce soit aux chrétiens. Quiconque rejette Jésus finira mal. Quiconque néglige cette pierre principale sur laquelle nous devons bâtir finira mal. Bien sûr qu'il y a toujours un temps où ceux qui rejettent Jésus ont l'impression qu'ils avancent, ont l'impression que ça marche bien. Ce n'est qu'un temps. On voit tout ce qu'on voit dans le monde, des gens comme Johnny Hallyday. Pendant un temps, il a semblé réussir. Il était comme un dieu pour beaucoup de Français. Mais quand le cancer est venu, c'est là qu'on a compris qu'il n'était rien du tout. Seul Jésus qui peut vaincre le cancer, qui a vaincu la mort, parce que la force des apôtres venait d'où? Pierre dit, sachez-le bien, vous tous ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Donc les apôtres étaient fortifiés par la résurrection de Jésus pour dire, d'accord, vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et Johnny Hallyday, face à la mort, il n'a fait que pleurer et ne pouvait rien. Pourtant, il a connu 40 ans de succès fou à tous les niveaux. Mais quand quelqu'un me parle de la salle à manger de Johnny à Saint-Barth ou à Saint-Martin, mais c'est une table qui peut prendre 30 personnes. Donc on peut s'imaginer la salle à manger, elle est elle-même comment, puisque la table déjà peut prendre 30 personnes. Mais qu'est-ce que ça l'a sauvé? Pas du tout. La pierre qu'on rejette, Jésus que tu rejettes, Jésus que tu négliges, finira, tu vas regretter, ça sera à tes dépens, parce que ça va se révéler être c'était la pierre principale qu'il ne fallait surtout pas négliger. Et les pharisiens avaient négligé Jésus, puisqu'il venait de la Galilée, il venait de Nazareth. C'est pourquoi Pierre leur dit Jésus de Nazareth, parce que dans la logique des juifs, il n'y a que les gens de Judée qui pouvaient être de Dieu. Parce que Galilée et Samarie, c'était des régions mélangées. Il n'y avait pas que les juifs seulement. Il y avait aussi des étrangers mélangés aux juifs. Donc les choses pures de Dieu ne pouvaient sortir que de la Judée. Mais Jésus, lui, il est sorti de Nazareth. Parce que Dieu est tout puissant pour sortir n'importe où ce qui est de lui. Il a sorti Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Pierre leur dit Jésus de Nazareth. Donc vous l'avez négligé parce qu'il venait de Nazareth. Eh bien, vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est lui le salut, parce que dans le monde entier, il n'y a personne qui est ressuscité d'entre les morts par sa puissance. Lui seul, Jésus est ressuscité. Eh bien, c'est à cause de son nom que cet homme-là est guéri. Aujourd'hui, les païens négligent Jésus. Ils font toutes sortes de belles affaires. Ils trichent, ils mentent, ils semblent prospérer. Et parfois, ils rendent jaloux certains vrais chrétiens. Mais non, nous n'avons pas à être jaloux. Parce que tout ça, c'est bâti sur du sable. Tôt ou tard, ça finit par s'écrouler. On a vu comment Sarkozy s'était écroulé. On a vu comment François Fillon s'était écroulé. On a vu comment Hillary Clinton s'était écroulé. Tout le monde disait que c'est elle qui allait être la présidente des États-Unis. Mais ça s'est écroulé. Tout ce qu'elle a bâti, elle a fait 30 ans dans le gouvernement, toutes sortes de présence politique, elle a été maire de New York, elle a été ceci, cela, secrétaire, ministre des Affaires étrangères, on disait d'elle que c'était la politicienne américaine la mieux préparée à être présidente. La mieux préparée. Amen. La pierre qu'on rejetait les bâtisseurs est devenue la pierre principale de l'angle. En rejetant Jésus, tu ne peux rien faire. Tôt ou tard, ça va se voir que tout ce que tu as bâti va s'écrouler. Les païens négligent. On a vu comment Michael Jackson a fini. Prince, comment il a fini. Tous ces humains-là qui sont en train de négliger Dieu finiront mal. Ils se rendront compte au moment de la mort qu'ils avaient négligé la pierre principale. Je me souviens de l'histoire d'une dame et de son mari qui ne croyaient pas en Dieu. C'était des athées convaincus. Pour eux, Dieu n'existait pas. Mais le problème, c'est que tôt ou tard, la réalité va te rattraper. Tu as beau dire que le crocodile n'existe pas, mais un jour, tu te trouveras face à un crocodile. Là, ça sera trop tard. Et ces gens-là, la femme a attrapé le cancer. En ayant le cancer, à un âge très jeune, elle a eu le cancer. Et c'est venu à un moment où elle se voyait mourir. Et pendant qu'elle mourait, elle a crié à son mari. Il a dit, mais je meurs. Je suis en train de voir l'enfer. Donc ça existe. Parce que toute leur vie, ils disaient, mais on a cru que ça n'existait pas. Mais là, je suis en train de partir là-bas. C'est horrible. Aide-moi. Mais le mari ne savait pas comment l'aider. Mais il s'est souvenu que dans le tiroir, dans sa mère lui avait donné autrefois une Bible. Alors il a commencé à fouiller dans les tiroirs. Il a sorti la Bible, mais il avait la Bible dans la main. Mais il ne savait pas comment utiliser la Bible pour sauver sa femme. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Depuis qu'on lui avait donné la Bible, il l'avait classée quelque part. Il n'a jamais voulu lire. Certainement sa mère l'avait invité à des réunions de chrétiens. Peut-être qu'il a assisté, mais il a fait fi. Il ne s'est même pas intéressé pour dire, mais je vais lire pour me faire mon opinion. Non, les gens sont orgueilleux. Au lieu de dire, bon, je veux quand même moi-même lire et puis savoir c'est quoi. Non, il n'a même pas. Donc, et quand il a pris la Bible, il entendait les cris de sa femme qui était en train d'aller en enfer, qui est en train de mourir, mais il ne savait pas quoi dire. S'il savait même Jean 3,16, rien qu'un seul verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il aurait dit à cette femme-là, à sa femme, alors appelle Jésus, crie à l'aide, demande l'aide de Jésus. Il est écrit dans Romains 10,13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si au moins il avait ce verset-là qui dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, il aurait dit à sa femme, crie le nom de Jésus. Jésus, sauve-moi. Et sa femme allait être sauvée. Mais il ne savait pas. Il ne savait même pas dire cela. Parce qu'il a rejeté la pierre principale. Quiconque rejette cette pierre-là finit mal. Les pharisiens des religieux, ils ont rejeté la pierre principale qui était Jésus. Jésus a fait toutes sortes de choses extraordinaires pour leur ouvrir les yeux, pour comprendre qui il était. C'est lui que Dieu a envoyé pour sauver tout le monde, et les juifs, et les grecs, et les non-juifs. Mais ces gens-là, dans leur orgueil, ils ont négligé la prière principale qui était Jésus. Parce qu'ils étaient dans leur système religieux. Il ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas faire cela. Le jour du sabbat, il ne fallait pas faire ceci. Comme j'ai l'habitude de raconter, en Israël, le jour du sabbat, on n'a même pas le droit, les juifs, ils n'ont pas le droit d'appuyer sur les boutons de l'ascenseur. Parce que c'est du travail. Donc, ça montre comment la religion amène la bêtise. Mais marcher, prendre les escaliers, ça, ce n'est pas du travail. C'est appuyer le bouton de l'ascenseur qui est du travail. Vraiment, c'est des contradictions. Mais tu te dis, mais voilà, quand on néglige la pierre principale, on finit dans des bêtises. On finit dans des choses absurdes. Vous allez voir ces juifs, en pleine chaleur, ils mettent des costumes noirs. Déjà, c'est des costumes. Ensuite, c'est des couleurs noires. Avec des chapeaux que nous, on met en France en hiver. Mais eux, ils sont dans la chaleur, mais c'est la tenue de leur religion. Alors, avec leurs costumes noirs, chapeaux d'hiver, en plein été. Mais voilà, quand on néglige la pierre principale, quand on néglige Jésus, ça finit toujours comme ça. Mais, Entre-temps, on a l'impression que parfois ça marche, on est bien. On est musulman, ça avance. J'ai 2 maisons, j'ai 3 maisons. Mais tôt ou tard, tu te rendras compte que tu as négligé la personne qu'il fallait qu'elle soit au centre. C'est Jésus. C'est pourquoi même tous ceux qui se disent chrétiens, qui négligent le Seigneur, qui veulent bâtir leur vie par leurs propres efforts, par leurs propres raisonnements, ça peut marcher pendant un temps. Mais un jour, tu te rendras compte que tu es épuisé. Tu as négligé la pierre principale. C'est Jésus qui est notre solution. Un point, c'est tout. C'est Jésus seul qui peut nous sauver des péchés. C'est Jésus seul qui peut nous donner la force de vaincre le mal. C'est écrit dans Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus le dit. On ne peut pas négliger Jésus. On ne peut pas négliger ses paroles. Comme je l'ai dit précédemment, notre Père, un jour, a parlé du ciel pour dire aux apôtres de Jésus, « Celui-ci est mon fils. Écoutez-le. » Pourquoi il leur dit ça? Pour qu'ils ne loupent pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue par Jésus, ainsi que la vérité. Quiconque néglige cet homme-là, il finira mal. Qu'il soit pasteur, qu'il soit je ne sais qui. Si tu négliges de bâtir sur Jésus-Christ, que lui, le salut ne vient que de lui. Toute solution ne vient que de lui. Si tu négliges ça, tu vas t'épuiser. Et tu peux finir mal. Tu peux prendre des chemins qui vont te détruire. C'est important de ne pas négliger le Seigneur. C'est lui qui a la solution. Et nous lisons dans Luc 13. On va prendre quelques cas. Luc 13. À partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Amen. Amen. Jésus dit, vous êtes des hypocrites. Vous amenez vos chevaux, vos ânes à aller boire le jour du sabbat. Mais cette femme, elle était liée par Satan. Donc je n'avais pas le droit de la guérir le jour du sabbat. Eux, ils étaient accrochés à leur religion. Mais on travaille 6 jours. Le jour du sabbat, c'est le repos. Mais ils n'avaient pas compris que c'était quel repos il s'agissait. Au moins, il pouvait reconnaître que, mais là, mais cette femme était liée, ça fait 18 ans. Cet homme-là l'a guéri. Quand même, c'est un bon acte. À partir de là, réfléchir. Mais non, non, non. Ils étaient accrochés à leur religion, accrochés à leur système. Donc, quand Jésus fait quelque chose de bien, allez, ça devient des problèmes. Ils ont négligé la pierre principale qui était Jésus. Et c'est pourquoi, à leur époque, les gens n'étaient pas guéris. Les gens n'étaient pas délivrés. Et donc quand Jésus vient guérir et délivrer, ça vient de Satan. C'est Belzéboul qui lui donne le pouvoir. Et Jésus a dit, vous êtes en train de pécher contre le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses-là. Il faut que Jésus soit le centre bien-aimé. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont restés jeunes. Ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident. Ce n'est pas Jésus qui les conduit. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est ainsi que c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu qui va te saisir et qui va te conduire. C'est ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas soi-même qui décidons, on va en Chine, on va en Guyane. L'Esprit de Dieu va nous conduire. Parce que nous appartenons maintenant à Dieu. C'est lui qui doit être la pierre principale, Jésus de Nazareth, dans nos vies. Et quand on néglige cette pierre principale, on ne produira pas de fruits. Je vous ai souvent raconté l'histoire de Jackie Pullinger, qui était une fille de 23 ans, 21 ans, je crois, ou 23 ans, qui a entendu la voix de Dieu qui l'a dit, « Je t'envoie, je t'appelle. » Elle a dit oui. Elle est partie voir un pasteur pour dire, « Mais Dieu m'appelle, je fais quoi ?» Le pasteur dit, « Ben, tu le suis ?» Elle dit, « Mais je vais le suivre comment ?» Eh bien, le pasteur lui dit, « Mais Abraham aussi, Dieu l'avait appelé et il avait suivi. Il est sorti de chez lui, il a suivi Dieu. » Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie de chez elle. Elle a pris le billet le plus... qui amenait la distance la plus longue de l'époque, c'était en bateau. Donc, ça allait vers l'extrême-orient, vers la Chine, là-bas. Elle a pris le billet le plus... le voyage le plus long. Arrivée à Hong Kong, elle entend la même voix qui lui dit, « Maintenant, tu peux sortir. » Elle est sortie. Elle a commencé à évangéliser dans la cité où il y avait les délinquants les plus dangereux, où il y avait les mafieux, il y avait les prostituées, il y avait les bars d'opium. C'est là qu'elle a commencé à travailler. Mais bien aimé, il faut savoir que avant elle, il y avait déjà des églises qui étaient à Hong Kong. Mais ces églises-là ne s'approchaient même pas de là où Jackie allait travailler. Parce qu'ils étaient bien dans leur confort. C'est eux-mêmes qui dirigeaient leur vie. Mais Jackie est parti s'installer dans le quartier le plus dangereux. Mais elle avait mis Jésus au centre. Pendant 2 ans, rien ne s'est passé. Elle a tout fait. Elle a organisé des repas. Elle a organisé de matchs de ping-pong avec les jeunes, les voyous. Elle a fait toute sorte d'activités pour leur parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Rien ne s'est passé. Mais après 2 ans, la gloire de Dieu s'est manifestée. Dieu nous éprouve. Il veut voir si vraiment on l'a mis au centre. Au début, quand on le met au centre, on a l'impression que rien ne se passe. Mais il veut voir nos intentions. Est-ce que nous tenons à lui vraiment? Pendant un temps, rien ne se passe. En réalité, il regarde. Est-ce que tu as vraiment compris que c'est lui qui doit être le centre? Si tu as compris, tu vas continuer. Comme Joseph, il a eu les visions de Dieu. Il avait compris que ça venait de Dieu. Il est resté pur. En prison, il est resté pur. Chez Potiphar, il est resté pur. Parce qu'il savait qu'il avait un appel de Dieu. Quand on comprend, on persévère. Quand on comprend que Jésus est le centre, on reste sur la parole de Dieu. On reste sur le modèle de Jésus. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, rares sont les chrétiens qui lisent vraiment les évangiles. Ils prennent le livre de Luc. Il lit du début à la fin. Il prend le livre de Jean. Il lit du début à la fin. Rares sont les chrétiens qui le font. Ils écoutent plus les prédications des humains. Mais lire ce qu'on dit de Jésus directement dans la Bible, on lit que les passages cités par le prédicateur. Rares sont ceux-là qui disent, bon, pendant ce mois-ci, je veux lire l'évangile de Jean. Je veux lire l'évangile de Luc. Rares sont les chrétiens qui le font. Pourtant, c'est Jésus qui est la pierre angulaire. On préfère lire les commentaires des autres, écouter les commentaires des humains. Je ne dis pas que c'est mauvais, puisque Dieu a établi les apôtres et les docteurs pour paître son troupeau. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand on a la source elle-même qui est là, la Bible, on a la source qui est Jésus lui-même, le modèle qui est Jésus, la pierre principale, c'est Jésus lui-même. Donc il faut qu'on prenne le temps de lire Jésus lui-même. De lire les évangiles qui parlent de lui. Il faut qu'on prenne ce temps-là. Parce que c'est lui la pierre principale. Et si on néglige ça, un jour ou l'autre, on payera. Nous, à une époque, on croyait que Jésus, c'est Jésus qui avait dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même. » C'est parce qu'on ne lisait pas. Donc on trouvait ça logique, c'est une bonne phrase. Oh, ce n'était pas dans la Bible. Donc il faut que chacun lise. Même si on écoute les prédicateurs, mais il faut lire les évangiles. Jésus doit être la pierre principale. C'est là qu'on verra. C'est là qu'on comprendra certaines choses. C'est là qu'on recevra l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui cherchent l'Esprit de Dieu, ils jeûnent 40 jours, ils jeûnent 3 jours. Mais quand tu lis les évangiles, tu reçois l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est dans Jésus.
Il nous communique l'Esprit de Dieu. C'est la pierre principale. Et Jacques, qui était une femme seule, elle a fait plus que les églises qui étaient déjà en place dans leur propriété, dans leur ordre, voilà, dans leur cadre. Elle était seule, mais avec Jésus comme pierre principale, elle a fait plus que ces organisations-là. Hudson Taylor, quand il est parti en Chine, il était seul, mais il avait mis Jésus comme pierre principale. Les églises étaient déjà en Chine, mais elles restaient le long de la côte, comme on dit ici, le long du littoral. Elles restaient là, en train de faire un travail propre avec les Chinois qui ont étudié à l'université. Et voilà, et entre eux, les Anglais, les commerçants qui étaient là. Mais Hudson Taylor, lorsqu'il est parti en Chine, il s'est habillé comme un Chinois. Il a laissé la barbe pousser comme un Chinois. Comme l'apôtre Paul dit, avec les Juifs comme avec les Juifs, avec les Grecs comme avec les Grecs. Il s'est fait Chinois pour sauver les Chinois. Et il a mis Jésus au centre. Et à partir de là, le Seigneur a suscité d'autres personnes pour le soutenir. C'est là que ce qu'on appelle la mission intérieure de Chine a été créée. Eux, ils sont entrés à l'intérieur de la Chine. Ils ne sont pas restés au littoral. Ils sont entrés à l'intérieur. Ils ont sauvé les Chinois à l'intérieur. C'est là que l'évangile est entré réellement en Chine. Parce qu'un homme a mis Jésus au centre, bien-aimé. Mettons Jésus au centre. Arrêtons avec nos raisonnements ou avec nos, ce qu'on a entendu dans le passé. C'est Jésus que nous devons suivre. Et en suivant Jésus, c'est Jésus qui va nous rassembler avec d'autres personnes aussi qui le suivent. Mettons Jésus au centre. Ne laissons pas nos ambitions personnelles nous prendre. C'est Jésus qui doit être au centre. Jésus a dit à cette femme-là, lève-toi. Tu es guérie. Elle s'est redressée. Les gens ont voulu parler. Jésus a dit, j'ai le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat. De la même manière que vous permettez de donner, de délier votre âme pour lui donner de l'eau, moi j'ai le droit aussi de guérir. Dans Jean chapitre 9, Jésus-Christ guérit un aveugle de naissance. Les gens sont venus encore avec les mêmes polémiques. Ah, mais comment il peut faire ça ce jour-là, le jour du sabbat? Il y a un problème. Jésus dit, oh, un aveugle de naissance. Nous allons entendre lui-même l'aveugle défendre le Seigneur. Jean 9. Nous devons comprendre qui est le Seigneur et savoir parler de lui. Il est bon. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Amen. Jésus dit quoi? Il faut travailler pendant qu'il fait jour. C'est-à-dire que pendant qu'il y a la grâce de Dieu, pendant que tu respires, pendant que tu as une certaine force, pendant que tu as une certaine compréhension des Écritures, pendant que tu sais que Dieu a promis de nous envoyer sauver l'humanité, c'est aujourd'hui qu'il faut travailler. Il ne faut pas attendre demain. Il faut travailler pendant qu'on sait prier. C'est maintenant qu'il faut travailler. Et Jésus dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyer ». Il y alla, se lava et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui ». D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait, « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, « Va te laver à Siloé. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. C'est pourquoi Jésus a dit, quand il fait jour, il faut travailler. Que ce soit sabbat ou pas, moi j'ai la puissance. C'est maintenant que je veux manifester cette puissance-là. Parce que après, quand Jésus a dit aux gens qui étaient venus l'arrêter, c'est l'heure des ténèbres, il n'a plus, c'était fini, il n'a plus fait de miracles. Donc, c'était des miracles de ce genre-là, il n'en a plus fait. Il a dit, maintenant qu'il fait jour, je veux manifester la puissance de Dieu. Sabbat ou pas. Et ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme était pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Et il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et c'est toi qui nous enseignes. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Amen. Il l'adora. Et Jésus a dit par la suite, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Voilà, ceux qui croient qu'ils sont forts, qu'ils connaissent bien, qu'ils connaissent, et ils vont devenir aveugles. Mais ceux qui sont simples, qui reconnaissent que Jésus seul est la solution, Dieu va leur ouvrir les yeux, ils vont voir sa gloire. Donc, bien-aimés, humilions-nous devant le Seigneur. C'est Jésus qu'il faut suivre. Et c'est Jésus qui est le bon berger. Il nous conduira dans les verts pâturages. Il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Quand je dis sauver, c'est un nom complet. Sauver du péché, sauver de la maladie, sauver de la mort, sauver de la fausse connaissance. Seul Jésus est la grâce. Seul Jésus est le chemin. Seul Jésus est la vie. Seul Jésus est la vérité. Il est tout cela à la fois. Quiconque bâtit en dehors de Jésus verra que sa construction ne tiendra pas. Bâtissons sur le Seigneur. Demandons-lui de prendre contrôle de notre vie et de nous conduire en toutes choses. Dès qu'une affaire se présente, un problème se présente, prenons les évangiles, lisons, qu'est-ce que Jésus peut nous répondre? Ou si quelqu'un nous donne un conseil, il faut que ce conseil tourne autour de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le centre, c'est lui le bâtisseur. Ce n'est pas la philosophie qui va te,
sauver ou bien régler ton problème.
C'est Jésus seul qui règle le problème.
Donc, un conseil qu'on nous donnera doit tourner toujours autour de Jésus. C'est lui la pierre qu'il ne faut pas rejeter. Parce que c'est la pierre de l'angle. Pour tout, c'est Jésus qui doit être le centre. Prenons de la peine de prendre un évangile. Disons, je vais lire pour en apprendre davantage sur mon Seigneur. Lire, comprendre l'esprit de Christ. Tu lis l'évangile de Jean, tu vas comprendre l'esprit de Christ. Tu lis l'évangile de Luc, tu vas comprendre l'esprit de Christ. Matthieu, Marc, tu vas comprendre l'esprit de Christ. Tu pourras mieux le servir parce qu'il sera maintenant ton centre, le centre de tout. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas comprendre ce que certains qui avaient compris que Jésus était le Messie, ils avaient compris que même s'il a fait ça le jour de sabbat, c'est toujours dans la volonté de Dieu. Mais les autres qui n'avaient pas considéré Jésus ont cru qu'il s'est trompé. Mais Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Je ne me trompe pas. Je fais la volonté de Dieu. Quand on est avec Jésus, on comprend mieux les choses. Alors que quand on n'est pas avec lui, on va taper à côté, croyant qu'on fait bien les choses. C'est ainsi que les vrais missionnaires de l'époque, ils avaient mis Jésus au centre. Je connais Charles Stud, il avait même reçu un grand héritage financier. Lui-même, il était missionnaire. Son père est mort, il lui a laissé beaucoup d'argent. Mais il a pris cet argent, il a donné ça à d'autres missions. Pour que lui ne dépende que de Jésus et non pas de l'argent de son père. Mais d'où ça vient cette idée-là? Mais ça vient de tout simplement de l'évangile. Dans l'évangile, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit même, ne prenez même pas de l'argent qui est à vous. Allez comme ça, moi je pourvoirai à vos besoins. Quand on comprend, quand on lit les évangiles, on devient surnaturel. Il a pris l'argent de l'héritage, il a donné à d'autres missionnaires chrétiens. Lui, il a dit, moi je vais dépendre de Jésus. Il va pouvoir à la mission. Parce qu'il a lu ça dans les évangiles. Que Jésus était capable de tout. Il est tout puissant. Il doit être le centre. Même un voleur à la croix. Il a dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis. Mais l'autre a voulu polémiquer. Ah mais oui, si tu es le fils de Dieu. Ah mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Hein? Moi je ne crois pas trop. Ah ben d'accord. Tu vas rester là-bas, crucifié. Et aller en enfer. Mais celui qui a cru est parti au paradis. Mets ton Jésus au centre de tout. Que ce ne soit pas un mouvement qui soit notre centre, une église ou un homme. C'est Jésus qui doit être le centre. C'est la parole de Dieu qui doit être au centre. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut lire. Il faut lire l'Esprit de Christ, il faut lire les évangiles régulièrement. C'est comme ça qu'on reçoit l'Esprit de Christ. Je me souviens quand je m'étais converti. Comme je le dis toujours, ma conversion a été radicale. Et j'avais lu l'évangile de Jean après. J'ai lu l'évangile de Jean, il y a l'Esprit de Christ qui était entré. Et donc quand j'allais dans une réunion de prière, sans connaître beaucoup la parole de Dieu, je discernais les choses facilement parce que j'avais quand même l'Esprit de Christ en ayant lu l'Évangile de Jean. C'est important de lire l'Évangile, de lire la vie de Jésus pour recevoir son Esprit et ça aide après à marcher conformément à la parole de Dieu. Jésus est la pierre de l'angle. Si tu le négliges, tu mets d'autres pierres à sa place, à cette place-là, ça finira par s'écrouler. Qui nous aide vraiment à le mettre au centre de tout. Que l'on soit fort, que l'on soit faible, Jésus doit être le centre. Que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à te mettre au centre de tout, Seigneur. Seul ton nom peut sauver, Seigneur. Seul ton nom, Seigneur, donne la vie, Seigneur. Seul ton nom est la vérité, Seigneur. Ton nom est la solution, Seigneur, pour tout. Ton nom est la solution.